Dr Philippe Glasiou, vous êtes épidémiologiste principal du programme mondial de lutte contre la tuberculose à l'OMS. Tout d'abord, dans quelle proportion la pandémie de COVID-19 est-elle en train de menacer les progrès de ces dernières années dans la lutte contre la tuberculose?
L'épidémie de COVID-19, effectivement, va avoir un impact négatif sur la pandémie de tuberculose pour plusieurs raisons. La première, c'est que les réponses des gouvernements, des pays contre le Covid a entraîné une difficulté pour les programmes de tuberculose, c'est-à-dire une diminution du nombre de cas dépistés qui va entraîner par la suite une augmentation du nombre de cas et une augmentation de la mortalité en 2020. Alors on estime que la mortalité en 2020 pourrait augmenter de 200 à 400 000 cas de décès dus à la tuberculose en liaison avec les retards à la détection qui sont en relation avec la réponse au Covid. Donc, les programmes ont été très fortement perturbés. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que le Covid entraîne une crise économique très sévère dans de nombreux pays qui va à son tour entraîner une augmentation de la pauvreté et de la malnutrition. La malnutrition, c'est une des causes les plus importantes, contribuant, d'après nos estimations, 22% des nouveaux cas dans le monde sont liés à la sous-nutrition. Donc c'est ces deux raisons principales, la perturbation des services entraînant une réduction du nombre de cas dépistés et par la suite la crise économique et l'augmentation de la pauvreté qui sont des déterminants de la tuberculose.
Est-ce à dire qu'avec la COVID-19, des pays ont omis de diagnostiquer la tuberculose?
C'est ça, oui. Par exemple, des machines pour le diagnostic de la tuberculose, telles que le GeneXpert, qui est un diagnostic moderne et rapide, sont utilisés pour le dépistage du Covid. Alors, le test pour le dépistage du Covid marche très bien et c'est efficace, mais au détriment du diagnostic de la tuberculose. Donc, les retards sont observés de ce fait. Des retards aussi liés au fait que certains services sont fermés ou les personnels ont été. On leur a demandé de travailler pour la réponse pour le Covid, pour faire par exemple tracer les contacts, etc. Et donc ne s'occupe plus de tuberculose. Alors ça, c'est une des difficultés. Les budgets aussi ont été réalloués à la réponse contre le Covid.
Et l'OMS a cité le cas de l'Inde, pays le plus touché. Les notifications hebdomadaires et mensuelles ont chuté de plus de 50% de fin mars à avril à la suite de l'imposition d'un confinement. Comment l'expliquez-vous?
Pour les raisons que je viens déjà de citer, alors peut-être la raison principale au mois d'avril en Inde, c'est le confinement généralisé national très, très strict qui empêchait les gens qui étaient malades de quitter leur domicile pour consulter. Donc ça, c'était une première raison. La deuxième, c'est que de nombreux personnels de santé n'ont pas pu aller se rendre au travail ou se sont rendus au travail mais ont été réaffectés à la lutte contre le Covid. Et enfin, des ressources financières ont été réallouées de la tuberculose vers la lutte contre le Covid. Donc les services se sont retrouvés dans une situation de baisse d'activité considérable, baisse du nombre de malades se présentant et aussi baisse de la capacité à diagnostiquer les nouveaux cas.
Et une tendance similaire a été enregistrée en Afrique du Sud entre mars et juin. Peut-on dire que Covid a fait passer au second plan certaines maladies comme la tuberculose?
Oui, tout à fait, c'est exact. Pas seulement la tuberculose d'ailleurs, un certain nombre de services de santé essentiels comme par exemple la vaccination ou d'autres ont aussi été touchés du fait de la priorité donnée à la lutte contre le Covid.
Déjà début mai, le département halte à la tuberculose de l'OMS avait estimé que 3 mois de confinement anti-Covid pourraient aboutir à 6 millions de nouvelles infections et 1,4 million de morts supplémentaires de la tuberculose entre 2020 et 2025. Et que dit désormais l'OMS par rapport à ces projections?
Alors, les projections pour le moment sont basées sur des hypothèses. Et donc, il y a eu différentes projections qui ont été publiées par différentes équipes, en Angleterre en particulier, et puis par nous-mêmes en Suisse. Les hypothèses peuvent différer entre les modèles. Donc, ce qui est très probable, c'est qu'il va y avoir une augmentation de la mortalité du fait du retard au diagnostic. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, probablement une augmentation de la transmission, du fait que les gens ne sont pas diagnostiqués. Il y a plus de transmission dans la communauté, dans les populations. Et donc, l'incidence va très probablement augmenter dans un certain nombre de pays dans lesquels les retards au diagnostic ont été les plus sévères et les plus prolongés.
Et plus de 10 mois de Covid dans le monde, pensez-vous ou qu'attendez-vous exactement des gouvernements pour élaborer un plan de rattrapage, si on peut dire?
Alors la première chose, c'est d'abord de faire en sorte que les services essentiels de santé soient restaurés, pas seulement pour la tuberculose, comme je le disais à l'instant, la vaccination aussi, et donc que les services de dépistage et de traitement se remettent à fonctionner. Alors le rattrapage, c'est-à-dire d'aller diagnostiquer la tuberculose chez des patients qui sont malades, qui sont restés chez eux, c'est une opération difficile. Il faut dans un premier temps restaurer les services et ensuite mettre en place, dans la mesure du possible, des services mobiles ou des activités de rattrapage sous forme de campagne, par exemple. Comment dire, la priorité numéro un, c'est de restaurer les services en état de fonctionnement normal, tel qu'ils fonctionnaient avant le début de l'épidémie de Covid.
La maladie reste l'une des premières causes de mortalité dans le monde. On n'en parle pas beaucoup, mais quelles sont les dernières données que vous avez au sujet de la tuberculose?
Alors, c'est effectivement la tuberculose, c'est la première cause de mortalité dans le monde liée à une maladie infectieuse. En 2019, il y a eu 1,4 million de décès dus à la tuberculose, en incluant un peu plus de 200 000 décès chez des personnes qui avaient le VIH et qui sont mortes de tuberculose. C'est un nombre qui est considérable, qu'il faut mettre en relation avec une incidence de 10 millions de nouveaux cas. Donc 10 millions de nouveaux cas, 1,4 million qui sont morts. C'est un chiffre qui est totalement inacceptable pour une maladie infectieuse contre laquelle on a des médicaments très efficaces. Donc cette mortalité est essentiellement due à des retards au diagnostic ou une absence de diagnostic.
Mais si de telles prévisions se confirment, est-ce qu'on peut parler d'un retour en arrière, surtout avec une augmentation de 400 000 morts qui renverrait le monde à la situation de 2012 par exemple?
Oui, tout à fait, vous avez raison. L'augmentation de la mortalité qui est prévisible en 2020 et qui pourrait très bien se prolonger en 2021, si les ressources financières ne sont pas suffisantes à allouer à la lutte contre la tuberculose, cette augmentation de mortalité va nous replacer probablement une dizaine d'années en arrière. Et c'est une situation qui est catastrophique.
Et plus de 95% des cas et des décès se produisent dans une trentaine de pays en développement, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique. Mais quels sont les pays les plus touchés?
Alors les pays les plus touchés sont effectivement les pays d'Afrique subsaharienne, les pays d'Asie du Sud-Est comme l'Inde entre autres, ou l'Indonésie ou les Philippines. Ce sont souvent des pays à ressources limitées. Et il y a différents déterminants qui sont les raisons pour lesquelles il y a autant de cas de tuberculose dans ces pays. Alors le premier, c'est les problèmes de nutrition, de pauvreté. C'est la première cause, le premier déterminant de tuberculose. Donc le plus de pauvreté, le plus de cas. Ça, c'est une première chose. Le VIH aussi augmente le risque de tuberculose chez les personnes infectées, en particulier chez les personnes qui ne sont pas traitées efficacement par antirétroviraux. Et donc dans les pays où il y a plus d'infections par le VIH, il y a aussi plus de tuberculose. Alors de ce point de vue, en Afrique, on observe depuis une dizaine d'années des progrès considérables qui ont été effectués dans le traitement par antirétroviraux et qui a un impact sur l'incidence de la tuberculose qu'on peut observer particulièrement dans les pays d'Afrique du Sud. Une incidence qui a diminué très rapidement au cours des 10 dernières années. Une mortalité chez les personnes infectées par le VIH, une mortalité due à la tuberculose a aussi considérablement baissé au cours des 10 dernières années.
Malgré les progrès réalisés en Afrique subsaharienne, quels seraient les pays qui seraient des sources de préoccupation pour l'OMS par rapport à la tuberculose?
Alors, c'est un peu les mêmes pays qui sont sources de préoccupation. C'est les pays qui ont le plus de difficultés financières, dans lesquels l'incidence est la plus élevée, donc les pays d'Afrique subsaharienne de façon générale. Et les pays que l'on a nommés, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, l'Inde, le Pakistan, les Philippines, l'Indonésie, sont des pays à fort taux d'incidence. Et ce sont des pays qui nous préoccupent et qui sont pour lesquels la priorité a été donnée de la part de l'OMS pour apporter un soutien technique et pour faciliter un soutien financier à la lutte contre la tuberculose.
Et ce que l'on constate exactement par rapport au rapport de l'OMS, on voit que l'Afrique du Sud et le Nigeria sont cités en Afrique subsaharienne. Pourtant, c'est les deux premières puissances économiques du continent.
Oui, alors il y a souvent une disconnection entre la puissance économique, la richesse du pays et puis les inégalités dans les pays. Au Nigeria en particulier, les inégalités sont considérables. Une proportion importante de la population qui vit avec des ressources extrêmement limitées et la qualité des services publics est hétérogène et probablement insuffisante pour un contrôle efficace des maladies, en particulier de la tuberculose. La richesse nationale, c'est une chose, mais sa distribution plus équitable, c'en est une autre. Et c'est probablement là où des progrès doivent être, plus d'efforts doivent être envisagés pour apporter moins, pour réduire les inégalités et améliorer l'accès aux services de santé des populations les plus vulnérables.
Dernière question. Qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale, notamment en termes de financement, pour venir à bout de la tuberculose dans le monde?
Alors, le financement de la lutte contre la tuberculose est essentiellement domestique, c'est-à-dire financé par les pays, à l'exception des pays avec le moins de ressources, les pays les moins développés, pour lesquels le financement international est crucial. Ce financement international doit augmenter. Le financement international pour la tuberculose est bien inférieur, par exemple, au financement qui est fourni pour la lutte contre la malaria ou le VIH. Donc, ils doivent augmenter à des niveaux qui soient comparables et non pas beaucoup plus bas, comme c'est la situation actuelle, de manière à améliorer la réponse dans les pays les plus touchés. Ça, c'est une première chose. La deuxième, la situation économique est engendrée par le Covid est sérieuse. Elle va accroître les inégalités. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, vont se retrouver dans des situations de précarité, de pauvreté. Et réduire les dettes, par exemple, des pays les plus pauvres ou augmenter l'accès à des ressources extérieures, en particulier par l'intermédiaire du Fonds mondial ou de la Banque mondiale, ce sont des pistes qu'il faut explorer plus en profondeur et apporter plus de financement. Lutter contre la crise économique dans ces pays va avoir un impact sur l'épidémie de tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie de la pauvreté. Donc, le plus de pauvreté, le plus de tuberculose. Et donc, les réductions que l'on a observées au cours des 20 dernières années en termes de mortalité de la tuberculose ou d'incidence, ces réductions sont en partie liées aux améliorations du niveau de vie et aux améliorations de la situation économique des pays. Alors, ces améliorations sont en grand danger, on voit l'impact du Covid sur les économies de pays qui sont fragiles. Et donc, le support qui est apporté par les instances internationales pour renforcer ces économies va avoir une importance cruciale dans les années à venir.
Docteur Philippe Glasiou, merci beaucoup, merci infiniment.